Le journal, bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Eric. Le conseil scientifique a présenté hier ses préconisations en vue du déconfinement. Nous verrons cela avec Daniel Messager. Le blues des médecins, les patients ont déserté leur cabinet. Nous irons aux États-Unis dans ce journal où Donald Trump a décidé de lever le pied avec ses conférences de presse quotidiennes dédiées au coronavirus. Vous invitez Eric.
Les invités à partir de 8h20. Question ce matin sur l'hypothèse d'une deuxième vague avec deux points de vue différents. La docteure Anne Goffard qui elle estime que la deuxième vague est inéluctable et ce n'est pas l'avis du professeur Jean-François Toussaint. Et vos questions à nos deux invités, c'est dès maintenant 01 45 24 7000.
France Inter. Dans 48 heures maintenant, le gouvernement présentera aux députés son plan de déconfinement. Une stratégie éclairée par les recommandations du Conseil scientifique. Ces préconisations présentées hier soir étaient favorables à un retour dans les établissements scolaires, mais d'y comprendre en même temps les enjeux sociétaux et économiques. Daniel Messager.
Le Conseil scientifique propose de maintenir crèches, écoles, collèges, lycées et universités fermées jusqu'en septembre parce que, dit-il, le risque de transmission est important dans ces lieux de regroupement. Pour autant, il prend acte de la décision politique et une note précise donc les modalités. Le port du masque sera obligatoire pour les collégiens et lycéens pour lesquels la compréhension est bonne. Pour les plus petits, le rôle des parents est essentiel. Ceux-ci ne pourront pas pénétrer dans l'enceinte de l'établissement. Les élèves d'une classe ne devront pas croiser ceux d'une autre classe. Les tables devront être espacées d'un mètre au moins. Le Conseil se dit favorable au principe de volontariat et non de l'obligation pour le retour à l'école. Beaucoup d'autres aspects sont évoqués. Par exemple, la sortie doit-elle se faire partout sur le territoire ? Oui, répond le Conseil. Une sortie par région n'étant pas réaliste, il sera essentiel de posséder des tests diagnostiques fiables pour identifier les cas et leurs contacts, tester et isoler. Des masques alternatifs devront être disponibles pour toute la population à porter dans les lieux publics. Les commerces, eux, ne devraient rouvrir que de façon prudente et progressive. Ce sont d'ailleurs les maître mot de cette sortie, la résurgence de l'épidémie ne pouvant être exclue.
Daniel Messager, un week-end donc d'ultime consultation pour le gouvernement. Le Premier ministre sera mardi à 15h devant les députés pour dévoiler sa stratégie avant un débat suivi d'un vote.
Oui, relancer l'économie sans relancer l'épidémie, et bien l'opposition aussi a ses idées.
Le Parti Les Républicains présente sa stratégie de déconfinement dans le journal du dimanche, masque obligatoire dans les transports, réouverture de certains cafés-restaurants dès le 11 mai. Pour les écoles, les Républicains demandent une reprise obligatoire, progressive et sous protection, ce qui suppose de tester l'ensemble des enseignants 48 heures avant la reprise des cours et ensuite de façon systématique et hebdomadaire. C'est ce qu'explique Damien Abad, le patron des députés Les Républicains, dans le journal du dimanche. On en reparle dans le journal de 8 heures. Si la vie économique reprend le 11 mai, il n'y a pas de raison pour que la vie cultuelle et religieuse soit laissée de côté. 130 prêtres affirment qu'ils peuvent accueillir les fidèles dès le 11 mai en respectant les règles de distanciation sociale. On le voit, un déverrouillage du confinement qui se précise en Europe et notamment en Espagne où les enfants auront le droit de sortir de chez eux à partir de ce dimanche alors que le bilan mondial de la pandémie a franchi la barre macabre des 200 000 morts.
Aux États-Unis, le désinfectant, selon Donald Trump, aura-t-il été le dérapage de trop ?
En tout cas, 48 heures après avoir créé une polémique mondiale et engendré bon nombre de moqueries en suggérant de traiter le Covid-19 au désinfectant, Donald Trump a tweeté hier que ses points presse quotidiens sur l'épidémie ne méritaient pas qu'il y consacre du temps. Il accuse les médias d'être des menteurs, de diffuser des fake news. Reste, Loïc Loury, que cette affaire de désinfectant a provoqué des remous jusque dans son propre camp.
Une petite vingtaine de minutes vendredi soir et un briefing tout simplement annulé. Ce samedi, Donald Trump est peut-être en train de s'éloigner du pupitre. Depuis le début de cette crise sanitaire, le président américain aura pris la parole à près de 50 de ses points presse quotidiens, parfois des marathons d'environ 2 heures. Une façon de se montrer après la mise sur pause de la campagne présidentielle, mais l'occasion aussi de multiplier les outrances, imprécisions et mensonges face caméra. Jusqu'à ce dérapage, jeudi soir, des injections de désinfectants désinfectant pour soigner le coronavirus. Même la chaîne conservatrice Fox News a désavoué son président. D'après les médias américains, les conseillers de Donald Trump aimeraient donc le voir ralentir, mais la décision, dit l'un d'eux, lui appartient et le président s'ennuie sans ses parties de golf ou sans ses séjours à Mar-a-Lago. Un président qui passe ses journées devant la télévision à voir le pays vaciller. En attendant, le point presse du jour. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et puis l'OMS émet de son côté des réserves sur la délivrance de passeports immunitaires, une idée émise dans certains pays pour accompagner le déconfinement. En revanche, peut-être dans cette course au traitement contre le Covid-19, un médicament l'emportera. Une nouvelle piste est à l'étude. Il s'agit d'un antiparasitaire. Les résultats in vitro sont prometteurs. Une piste dont on reparle dans le journal de 7h30. Ils sont moins en première ligne que les urgentistes, mais pas les moins impactés. Les médecins libéraux spécialisés ont vu en moyenne leur activité baisser de 70% depuis le début de l'épidémie. Et même si le gouvernement leur promet un plan de soutien, ils n'en demeurent pas moins anxieux. Exemple avec ces témoignages recueillis par Maxime Deps.
Le docteur Tullio Sarron est spécialiste dans les pathologies du pied. Pour lui, comme pour beaucoup de ses confrères, impossible de pratiquer la téléconsultation.
Comme des ORL par exemple. Comment examiner une oreille si on n'a pas de patient devant soi?
S'il peut lui téléconsulter, parfois le docteur Sylvain Labatide, rhumatologue à Paris, voit lui aussi défiler beaucoup moins de patients, forcément, dans son cabinet.
La secrétaire au chômage partiel, nous avons des frais fixes réguliers, comme le loyer par exemple, difficilement modulable.
Le gouvernement a certes consenti un report de charges pour ces professionnels de santé. Ils peuvent aussi bénéficier d'un prêt garanti par l'État, mais voilà.
Le prêt garanti par l'État qui consiste à quoi? À devoir s'endetter pour pouvoir le payer de toute façon plus tard. C'est pas une vraie aide, si vous voulez. Et puis surtout, on ne sait pas si nous serons dans la capacité financière de continuer notre activité ou si nous allons mettre la clé sous la porte.
Ne pas rouvrir son cabinet, estime son confrère, certains vont effectivement y penser.
Ça risque de pousser certains médecins proches de la retraite. Eux, ils vont sans doute mettre la clé sous la porte sans se poser de questions parce qu'ils n'ont pas envie ou de prendre un prêt ou de s'embêter plus. Ça risque d'être un problème.
Ce praticien qui relativise, comparé aux cafetiers, aux restaurateurs, on n'est pas les plus à plaindre, mais il y a quand même un vrai sujet.
Maxime Deps, des étrangers bloqués dans les terminaux de l'aéroport de Roissy. En raison du confinement, la police aux frontières semble encore plus stricte vis-à-vis du peu d'étrangers qui voyagent encore. Situation ubuesque, des étrangers placés en zone d'attente, plusieurs jours sans assistance et dans des conditions sanitaires dangereuses. Des voyageurs ont même été bloqués plusieurs jours dans un terminal de l'aéroport, selon les associations et un avocat que vous avez pu joindre, Rémi Brancato.
Trois jours bloqués au terminal 2 de Roissy avant finalement d'entrer en France, l'avocat Patrick Berdugo assure que c'est ce qui est arrivé à son client sud-africain résident en Suède. Il est arrivé il y a 10 jours à l'aéroport.
Il dormait sur les sièges du terminal et se nourrissait dans les machines dans le terminal. On lui a dit verbalement de reprendre un vol. La majorité des vols ne sont pas aujourd'hui assurés. Il ne pouvait pas quitter le terminal avant 3 jours. Nous sommes sur un ressortissant qui a le droit de circulation Schengen. C'est une situation qui est totalement ahurissante.
La PAF, la police aux frontières, reconnaît que des voyageurs peuvent se retrouver bloqués, mais en cas, dit-elle, de transit international. La PAF explique aussi qu'elle place en zone d'attente les personnes en situation irrégulière ou qui n'ont pas d'attestation imposée par l'état d'urgence sanitaire. Patrick Henriot, secrétaire général du GISTI, le groupe d'information et de soutien aux immigrés, dénonce la situation de ces 15 à 20 personnes chaque jour.
Elles y sont dans des conditions sanitaires pas adaptées, sans aucune possibilité de distanciation, avec une privation de masque, etc. Cette situation est d'autant plus préoccupante que ça ne sert absolument à rien de les maintenir dans cette zone d'attente, puisque au bout de 4 jours, faute de juge des libertés et de la détention pour statuer sur le maintien en zone d'attente, elles devront être mises en liberté.
Et près de 40 requêtes ont été déposées au tribunal administratif pour réclamer leur libération. Presque toutes ont été rejetées.
Allez, on termine avec une idée jardinage un peu particulière. Pourquoi ne pas planter un slip? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Laurence?
Plus de la moitié des Français ont un jardin. Alors l'ADEME, l'Agence nationale de l'environnement, leur propose cette expérience, l'idée de déterrer le slip 2 mois plus tard pour voir dans quel état il est. Il s'agit bien sûr de sensibiliser les petits et les grands pour montrer à quel point il y a de la vie dans les sols. Antoine Pierrard, ingénieur à l'ADEME au service forêt, alimentation et bioéconomie.
L'idée, c'est de creuser un trou d'une 15 cm de profondeur. On met dedans un slip en coton. L'essentiel, c'est qu'il soit 100% coton. Idéalement, s'il peut être bio et s'il peut être blanc, c'est mieux pour éviter tout ce qui est colorant. Et après, on rebouche le trou, on marque l'endroit et environ 2 mois après, on vient déterrer ce qu'il en reste. Et normalement, toute la matière organique, ou en tout cas une partie, a été consommée par les micro-organismes du sol. et donc on récupère seulement des lambeaux de tissu. L'idée, c'est de montrer qu'il y a de la vie dans la Terre et surtout de lancer le débat. Donc derrière, pouvoir dire bah, quel type de vie, pourquoi est-ce que dans certains cas ça a marché, pourquoi dans certains cas ça a pas marché. Pour interpeller le public, finalement, c'est un outil qui est très intéressant, justement parce que c'est décalé. On enterre un slip pour parler de sol. Ça paraît complètement aberrant, mais en fait, du coup, bah, on peut commencer à parler du fait qu'il y a de la vie dans les sols.
Des propos recueillis par Sandy Dauphin.
Un journal culotté de Laurence Thomas.